À l'ordre, s'il vous plaît. Donc, je me présente. Mon nom est Michel Leduc. Ancien député ici à l'Assemblée nationale, ancien secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et ancien administrateur de la SOPOC. Donc, nous poursuivons le colloque. Cette fois-ci, sur la coopération décentralisée, et je vous présente l'objectif. Il s'agit de dégager des nouveaux horizons par rapport à ce qu'on appelle la coopération décentralisée, qui est une nouvelle mouture de la coopération qui date déjà de 50 ans. Donc, ça va être intéressant d'entendre nos intervenants et intervenantes sur cette question. Donc, nous allons entendre Mme Annie Sanson, Mme Julie Lemieux, M. Hugues Grimard. Et je vais vous présenter chacun de nos intervenants. Nous allons commencer par Mme Sanson. Avant de commencer, je vais demander aux intervenants d'essayer, étant donné l'horaire très serré dans lequel nous travaillons, demander aux intervenants et intervenantes de s'en tenir autour de 8 minutes d'intervention. Et les questions, il y aura 15 minutes pour les questions. Donc, Mme Annie Sanson, je vous la présente. Elle est vice-présidente du comité exécutif responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, conseillère municipale du district de Villeray de 1994 à 2005. Maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, PAC Extension, depuis 2005. Elle a été responsable de l'implantation du programme Éco-quartier, membre fondatrice de la Fondation du maire de Laval pour la jeunesse, du maire de Montréal, pardon. Je me suis essayé, ça n'a pas marché. Marquis, ça nous ferait plaisir de vous accueillir à Laval, hein? Ça nous ferait grand plaisir. Donc, de la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse et présidente fondatrice du comité consultatif d'urbanisme dans l'arrondissement de 2002 à 2005. Conférencière en matière de sécurité urbaine aussi bien au niveau national qu'international pour Paris, Bruxelles, Dakar, Bordeaux, etc. Madame Sanson, à vous la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Duc. Évidemment, mes premiers mots, c'est des remerciements pour l'organisation aujourd'hui de cette journée. Malheureusement, j'y étais pas ce matin, j'étais sur la route, mais c'est avec un immense plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Donc, merci tout particulier à Jean-François Simard, qui était un grand ami depuis déjà, on ne dira pas combien d'années, Jean-François, mais nos cheveux blancs peuvent le dire. Alors, comme on a 8 minutes, je vais m'en tenir vraiment à mon texte écrit. Je suis pas absolument, j'aime mieux parler, mais là, je vais m'en tenir à ce qui est écrit, puis je pourrai répondre à vos questions après. Donc, messieurs les anciens ministres et anciens députés, mesdames et messieurs les représentants du Consulat général de France à Québec, distingués invités, chers amis, mesdames et messieurs, bon après-midi, mes collègues aussi élus des municipalités, pour moi, c'est extrêmement important. La coopération France-Québec a 50 ans. Ce fut le prétexte pour nous rassembler aujourd'hui. Mais plutôt que d'en faire un bilan, les organisateurs du colloque nous invitent à tracer les nouveaux horizons de cette coopération, ce que je trouve extrêmement intéressant. Nous sommes donc en mode prospectif, à préférer les tendances plutôt qu'au bilan. Dans le cas des villes, ça tombe très bien, comme on ose le dire ici au Québec, parce que c'est effectivement d'actualité de donner la parole aux municipalités et aux acteurs régionaux quand on parle aujourd'hui de relations et de coopération entre les nations. De fait, nous vivons une époque où l'identité des pays est de plus en plus liée à la composition et aux caractéristiques des villes et des métropoles qui les façonnent. Les villes occupent en effet de plus en plus de place sur l'échiquier mondial. Le phénomène est directement tributaire du développement de l'économie du savoir, de l'économie de la connaissance. Cette connaissance, cette concentration des savoirs, c'est dans les villes qu'elle se trouve. La démographie est l'autre grand phénomène qui vient donner du poids aux villes et aux métropoles. Nous serons plus de 9 milliards d'humains sur cette planète en 2050. L'Organisation des Nations Unies prévoit que cette croissance démographique se concentrera à presque 70 % dans l'espace urbain. Juste rappeler les chiffres, 1950, il y avait 30 % de population qui était dans les agglomérations, dans les grands centres urbains. En 70, il y en avait plus de 50 % et en 2050, on prévoit 70 %. Cette effervescence des villes nous force à changer notre représentation du monde. Notre idée de la géoéconomie mondiale ne tient plus. Elle est en retard, désynchronisée. Nous voyons donc encore le monde comme une mosaïque de pays et d'économies nationales. Mais en réalité, le monde est devenu une toile, un réseau de régions métropolitaines qui s'échangent continuellement des biens, des services, des talents et de l'information. Beaucoup d'informations. De l'information scientifique, de l'information commerciale, de l'information politique et de l'information surtout financière. On dit souvent que maintenant, le monde ne se définit pas à travers ses provinces ou ses pays ou ses continents, mais plutôt à travers les villes. Et je pense qu'on est rendu à cette ère-là. Et contrairement aux pays, ces milliers de réseaux, tissés d'une métropole à l'autre, n'ont vraiment plus de frontières nationales. Évidemment, les États continuent d'exister, mais ils sont soit en tension, soit en harmonie avec les villes et les métropoles. Certains maires rêvent même d'un jour où c'est l'État qui sera au service des métropoles. Et je vous laisse deviner qui pourrait penser ces choses-là, quand même. Donc, peut-être le maire de Québec, celui de Montréal. Alors, dans ce contexte, il se pourrait très bien que les futures avenues de la coopération France-Québec passent d'abord par les acteurs municipaux et régionaux. Voilà pour la tendance que j'identifie. Je ne suis pas la seule, évidemment. Nous sommes dans la prospection. C'est une hypothèse, mais je vois déjà des signaux très concrets qui viennent les renforcer. L'un de ces signaux, c'est la présence et la force des regroupements des villes et des métropoles sur la scène internationale. Le maire de Montréal, mon maire, est aujourd'hui président de Métropolis, une association internationale qui regroupe plus d'une centaine de métropoles francophones à travers le monde. L'organisation a pour mission d'accompagner les métropoles dans l'apprentissage mutuel, l'innovation, la gouverne, l'assistance technique et financière, une présence internationale et le débat sur des enjeux de l'heure. Métropolis a participé activement à la grande réunion de COP21 à Paris l'hiver dernier. Avec cette nouvelle présence des villes à l'international, à cause de la force et la vigueur des réseaux et des échanges, les problématiques urbaines et la gouvernance des nations deviennent pratiquement les deux faces de la même médaille. Nous avons accueilli en juin 2015 le Sommet international des maires sur le vivre ensemble, donc initiative de la Ville de Montréal. Cette réunion a rassemblé une quarantaine de maires des villes et des grandes métropoles du monde. Au terme des échanges, les représentants des villes ont signé un autre document de nature internationale qui se nomme la Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble. Pour y avoir participé, évidemment, plusieurs sujets, malgré nos différences ou nos distances, font en sorte que les métropoles ou les grandes villes vivent les mêmes problématiques. Et ça nous a permis vraiment d'échanger là-dessus avec certaines villes. Et cette réunion a aussi permis la création, à la fin, d'un observatoire international sur le mieux vivre ensemble. Cet organisme est basé à Montréal. Il est présidé par l'ancien diplomate canadien Raymond Chrétien. Il a pour mission de partager les pratiques innovantes en matière d'accueil et d'inclusion dans les grandes villes du monde. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, participait à ce sommet fondateur d'un mouvement qui s'élargit petit à petit. Tout cela crée les liens internationaux très solides. Dans ce contexte, il ne faut pas se surprendre que les maires de Montréal et de Paris entretiennent d'étroites relations, je dirais même des relations aussi d'amitié. Par exemple, à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo et la prise d'otage au magasin Hyper-Cachère de la Porte de Vincennes, M. Coderre a organisé avec le Consulat de France à Montréal une vigile de l'Hôtel de Ville et une marche de solidarité. Cette marche a d'ailleurs rassemblé le plus grand nombre de personnes hors France. Et c'est ce qu'on parle de lien entre les villes. Lorsqu'il se passe quelque chose, personne ne peut être indifférent à ce que nos voisins peuvent vivre à travers le monde. C'est dans ce même contexte de proximité que le maire Coderre a eu l'honneur d'être reçu à l'Élysée par François Hollande un mois plus tard. Il devenait ainsi le premier maire hors de France à être reçu par un président français. Donc, c'est pas rien, ça montre que les villes sont bien positionnées. Toujours sur la scène internationale, Montréal est évidemment membre de l'Association internationale des maires francophones, la IMF, de son acronyme. Comme vous le savez, la IMF a été fondée en 1979 par les maires de Paris et de Québec, M. Jacques Chirac et M. Jean Pelletier. L'organisme regroupe aujourd'hui plus de 272 villes et associations reliées au monde municipal francophone. J'ai parlé tantôt du Vivre Ensemble et de l'Observatoire international des maires du Vivre Ensemble. Or, l'Association internationale des maires francophones annoncera bientôt la formation d'une commission permanente sur le vivre ensemble dans l'espace francophone, présidée par le maire Coderre. Les villes qui joindront à la commission seront également membres de l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble. De fait, la commission permanente sera l'opérateur francophone de l'Observatoire. Cela permettra des échanges concrets entre les collectivités qui partagent non seulement une langue et des valeurs communes, mais au sein desquelles les échanges migratoires sont devenus extrêmement importants. Et parlons-en un peu de ces réalités. Il me reste 2 minutes, il me reste 3 pages. Dans le contexte du monde actuel, toutes les nations font face à des radicalisations de diverses natures. Bien avant les parlements, ce sont les villes et les métropoles qui vivent ces phénomènes. Ce sont les villes qui doivent se rencontrer et partager leurs expériences. Elles doivent réfléchir ensemble aux moyens d'assurer à leurs citoyens des milieux inclusifs et sécuritaires, justement basés sur les fondements du vivre ensemble. Montréal a beaucoup investi dans ses pratiques de participation à la vie collective. Chaque année, Montréal accueille plus de 35 000 immigrants. Cela représente 70 % de tous les nouveaux arrivants au Québec. Comme population, 56 % des Montréalais sont directement reliés à l'immigration, soit qu'ils sont nés à l'étranger ou qu'ils comptent un parent né à l'étranger, c'est plus qu'un Montréalais sur deux. Ces flux migratoires posent des défis importants d'intégration et on l'a vu avec les Syriens. C'est pour cela que Montréal a mis en place des politiques et des pratiques assurant la participation de l'ensemble des citoyens à toutes les sphères de la vie municipale. Parmi celles-là, on a mis en place la Charte des Montréalais des droits et des responsabilités, l'Office de consultation publique, des tables de discussion avec les leaders religieux de Montréal, la création d'une direction d'enquête sur les crimes haineux et les incidents haineux, et surtout la mise en place d'un bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Notre nouveau bébé également, c'est celui qui fonctionne très bien, c'est le Centre de prévention menant à la radicalisation, menant à la violence, qui a été mis sur pied en partenariat avec nos partenaires policiers, mais surtout aussi nos organismes, les écoles et les groupes religieux. Lors de son passage à Montréal en février dernier, le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, a visité le Centre de prévention de radicalisation menant à la violence. Il s'est dit extrêmement impressionné, et j'y étais, par l'approche préventive de Montréal. Et je vous dirais, avant de continuer sur notre lien avec la France qui est presque terminé, juste vous dire que M. Ban Ki-moon nous a dit, ce qu'il nous a dit après la rencontre, il nous a dit, écoutez, moi j'ai un contrôle sur ce qui se passe dans le monde et le modèle que vous avez mis sur pied à Montréal, je vais vouloir l'implanter dans toutes les villes à travers le monde. Donc il a pris le projet, il est parti avec ça parce qu'il était impressionné et c'était la première fois qu'il visitait une ville directement comme il l'a fait. Donc, aujourd'hui aussi, il y a un secteur prospectif important entre la France et le Québec. L'exemple du projet Bleu-Blanc Tech Montréal, une organisation qui est devenue membre de la French Tech Hub de France. Bleu-Blanc Tech Montréal, c'est une plateforme pour les entreprises françaises qui veulent s'installer en Amérique du Nord. C'est une plateforme pour les entrepreneurs français qui veulent développer un projet depuis Montréal. Et c'est également une plateforme pour les entreprises montréalaises qui veulent développer leur marché en France. Ce groupe permet des échanges, des maillages, des projets communs, le partage d'expériences et surtout une constitution de réseau. C'est très pertinent pour Montréal, particulièrement dans le contexte où la France se trouve en tête de liste des investisseurs étrangers dans la région métropolitaine. Les French Tech Hub de France ont été mis sur pied par Axel Lemaire, secrétaire chargé du numérique auprès du ministre de l'Économie, du redressement productif et numérique de France. L'initiative vise à faire de la France une pépinière de start-up capable de rivaliser avec les plus grandes places internationales. Les autres villes qui accueillent, et j'ai presque terminé, M. le Président, les autres villes qui accueillent les groupes French Tech Hub sont Abidjan, Barcelone, Cape Town, Hong Kong, Londres, Moscou, New York, San Francisco, Tokyo et Tel Aviv. Comme vous le voyez, on ne parle pas de pays, on cible des villes. Je dirais même qu'on cible uniquement des villes et des métropoles. Sommes-nous entrés dans l'ère de la métropolisation de la coopération internationale? Bien, poser la question, c'est un peu y répondre, et la discussion, elle est ouverte. En attendant qu'on se réjouisse, nous félicitons l'instauration d'un vol direct entre Lyon-Montréal sur Air Canada à côté du 16 juin. Donc, évidemment, Montréal aussi a un jumelage avec la ville de Lyon qui sera mis en évidence pour le 375e de Montréal l'année prochaine. Donc, elle sera l'invitée festive du Festival Montréal en lumière, ce qui fait que nous accueillons la Fête des Lumières de Lyon, en plus de faire place aux découvertes artistiques et gastronomiques de cette deuxième plus grande ville de France. Alors, je vais terminer là-dessus parce que mon temps est écoulé, mais je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci.
Je vous présente maintenant Julie Lemieux, bachelière en droit de l'Université Laval. Julie Lemieux a fait carrière dans le monde de la presse écrite. Elle débute en 1993 à l'emploi du quotidien Le Droit d'Ottawa, où elle couvre la politique municipale et nationale ainsi que les arts et spectacles. À compter de 1997, elle exerce sa profession au quotidien Le Soleil de Québec. Durant près de 12 ans, elle agit comme éditorialiste, chroniqueuse art et vie, reporter affecté aux fêtes du 400e, analyste de la scène politique municipale et journaliste au Parlement. Elle a aussi occupé différents postes au sein des instances de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Responsabilité politique, conseillère du district électoral de la chute Montmorency seigneuriale depuis 2009. Elle est vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec depuis 2013. Elle assume la responsabilité des dossiers suivants. Aménagement du territoire et urbanisme, culture et technoculturel, patrimoine, communication et images de marque, grands événements culturels. Madame Lemieux, la parole est à vous.
Merci beaucoup, M. le Duc, Mme Sanson, M. le maire. Merci pour cette invitation, vraiment. J'étais très touchée, en fait, de pouvoir participer à ces belles discussions. Mme Sanson l'a dit, je suis aussi convaincue que l'avenir de la coopération France-Québec passe par les villes. L'avenir passe par les villes en général. Je crois qu'on a des bonnes ambassadrices de nos maires ici aujourd'hui qui seraient d'accord avec nous. Mais la coopération France-Québec, en particulier, je crois, passe par les villes parce que les villes sont vraiment le palier de gouvernement qui touche le plus le quotidien des citoyens. On les touche par l'urbanisme, on les touche par la culture, par le sport, par le loisir, par les infrastructures, par les nids de poules, par les parcs, les événements, l'environnement, le patrimoine, le développement économique, le transport, bref, je pourrais continuer longtemps. Ce sont des sujets essentiels et les villes, je crois, ont effectivement un grand, grand rôle à jouer dans ces sujets. Et on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je pense que c'est notre responsabilité comme ville de voir quelles sont les meilleures pratiques à l'international. Et avec la France, bien, le lien est tout naturel. Nous, on entretient cette relation depuis extrêmement longtemps. Vous connaissez très bien le jumelage Bordeaux-Québec, qui a une cinquantaine d'années, qui est probablement le plus vieux jumelage au Québec et le plus connu. Un jumelage qui est très actif annuellement. Il se passe plein d'activités entre Bordeaux et Québec. Le maire part justement en mission à la fin juin pour Bordeaux Fête le Vin, entre autres, mais il part aussi avec une grande délégation économique parce qu'à chaque fois qu'on fait des missions, on essaie aussi justement de s'associer aux entrepreneurs de Québec et de Bordeaux pour que des échanges puissent avoir lieu entre eux. Et le maire de Bordeaux, quand Bordeaux à Québec a lieu, est toujours aussi présent avec des gens aussi de sa région pour que les échanges aient lieu aussi entre nous. On a fait un grand ménage des jumelages, ceci dit. On a gardé Bordeaux parce que c'était le plus performant et le plus actif. On en a gardé quelques autres aussi. Mais on a choisi au cours des dernières années, et on nous a demandé de parler d'avenir, donc c'est ce dont je vais vous parler. On a choisi de plutôt entretenir des relations extra-conjugales avec d'autres villes françaises, des relations qui sont aussi très, très intéressantes. On a eu, par exemple, un coup de foudre pour Nantes. Nantes, qui est une ville très créative, une ville qui ressemble un peu à Québec dans sa folie créative. On a des artistes si fantastiques et là-bas, c'est un peu la même chose. Le maire et moi, on est allés chacun de notre tour et on a vraiment adoré cette ville-là. On a établi une belle relation d'amitié aussi avec les élus de Nantes et puis de beaux projets ont émergé jusqu'à maintenant. Maintenant, beaucoup d'exemples, les passages insolites à Québec, parcours d'art public dans le Vieux-Port, est inspiré du voyage à Nantes. C'est des choses comme ça, des idées comme ça qu'on peut s'échanger en matière de culture et en d'autres matières aussi qui portent fruit. On a aussi une relation extra-conjugale avec Lyon, même si c'est jumelé, c'est une ville jumelée à Montréal. Désolée de vous annoncer la nouvelle. Ils vous sont infidèles. Donc, avec Lyon, on parle beaucoup patrimoine avec Lyon. Lyon est une ville qui est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial comme Québec. Elle est au conseil d'administration. Elle est même à la présidence du conseil d'administration. Donc, on a plusieurs projets en patrimoine avec Lyon, beaucoup de projets aussi en aménagement parce que ils ont aussi des cours d'eau qui traversent la ville, comme nous. Donc, on s'inspire énormément de ce qui se fait là-bas, et ça va continuer aussi dans les prochaines années. On est beaucoup avec Rennes, on est beaucoup aussi avec Saint-Malo, évidemment, la Transat Saint-Malo qui est bien connue, qui est de retour cet été. Paris aussi, avec qui on a des liens de coopération. C'est sûr que c'est pas la même dynamique, parce que Paris-Québec, c'est pas la même taille, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de discussions avec cette ville, et une relation d'amitié aussi avec le maire de Paris. Parlons maintenant d'avenir. L'avenir pour nous passe beaucoup par le numérique pour ce qui est de la coopération France-Québec. Je pense que le numérique est au cœur, la ville intelligente est au cœur de nos préoccupations, est au cœur de des préoccupations aussi des villes françaises. On l'a vu tout récemment, vous avez sûrement dû entendre parler de la semaine numérique qui a eu lieu à Québec il y a quelques semaines en avril. On a accueilli à ce moment, et tenez-vous bien, la plus grosse délégation française depuis les Jeux olympiques de 1976, quand même. 300 personnes étaient ici en France, à Québec, pardon, pour cette semaine numérique. Ça a été un grand succès. On les a même amenés à la cabane à sucre. Plusieurs d'entre eux n'avaient jamais vécu l'expérience. Ça a été vraiment un énorme succès. Beaucoup d'entrepreneurs ont pris contact à ce moment, des projets qui commencent déjà à émerger. Je crois que le numérique pour les villes françaises et québécoises, c'est vraiment important. Et dans ce cas-ci, je vous dirais qu'on a probablement plus à offrir à la France que la France a à nous offrir parce qu'on est à l'avant-garde. Ici, à Québec, par exemple, le livre numérique atteint des sommets. En fait, on est vraiment les champions du Québec, même plus que Montréal ou prorata de la population en termes de prêts de livres numériques. Nos bibliothèques sont très techno, grâce à l'Institut canadien aussi, je vous demande Tremblay qui connaît bien le dossier, avec l'Institut canadien qui travaille très fort. On enregistre des records de prêts présentement, papier et numérique. Donc, nos bibliothèques, vraiment, sont aussi, je crois, un sujet qui peut nous rapprocher encore plus des Français parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi toute la promotion de la culture autour de ça. Donc, voilà, je trouve que le numérique est l'avenir pour la coopération. Les jeunes pousses d'entrepreneurs aussi, comme je le disais, dès qu'on fait une mission, on essaie d'en amener avec nous et vice-versa. Et il y a vraiment des start-up, comme on dit en France, là, qui sont en train d'émerger dans les deux pays, dans les deux nations. Puis, je pense que ça, il faut mousser ça encore davantage. Le patrimoine. Moi, je vous dirais que ça, là... Là, on a à apprendre la France en matière de protection du patrimoine. Et puis, moi, je suis membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial aussi, du conseil d'administration. Et c'est un enjeu majeur. Et moi, j'aimerais beaucoup que la France nous aide à reconvertir nos églises, nous donne des idées, nous donne des moyens réglementaires aussi pour mieux intervenir, mieux protéger nos bâtiments. On a le devoir, je crois, d'intervenir dans ce domaine ensemble. Et je pense que là-dessus, on peut faire encore mieux. La francophonie, pour moi, c'est l'avenir aussi. Ça a la fois à dire, hein, parce qu'on parle de, on parle de France-Québec. Ça va de soi, mais ça ne va pas de soi tant que ça. Pour avoir participé moi-même à l'Association internationale des maires francophones, à un congrès, la francophonie n'est pas nécessairement toujours à l'ordre du jour. La protection de la langue française n'est pas nécessairement à l'ordre du jour. On parle de bien d'autres choses, et puis pourtant, ça devrait vraiment être ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Et puis, vous savez qu'on a créé le réseau des villes francophiles et francophones ici, donc Québec, on se veut un peu le rempart de la francophonie en Amérique du Nord, mais on est aussi le trait d'union, je pense, avec la France, et il faut qu'on travaille ça avec eux davantage pour que la France nous aide à préserver cette belle langue que nous avons en commun. Donc, pour moi, c'est aussi l'avenir, ça passe aussi par ce combat. L'environnement, évidemment, après COP21, je pense que tout le monde est encore plus conscient de l'importance d'agir à ce chapitre. Nantes va organiser justement un événement bientôt en septembre auquel on va participer. Et je pense que dans les prochaines années, ça va sûrement aussi s'imposer comme sujet. Donc, on me dit que j'ai pas mal fini. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, mais il faut y aller aussi de façon sectorielle au lieu de vouloir embrasser trop large. Selon les enjeux, selon les thématiques, on doit s'associer aux villes qui nous ressemblent, qui peuvent nous apporter et à qui on peut apporter aussi.
Merci. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vous présente Hugues Grimard, originaire d'Asbestos. Monsieur Hugues Grimard est diplômé du cégep de Sherbrooke en administration, option finance. Suite à cette formation, il devient gérant du camping L'Oiseau Bleu en 1989. En 1992, il devient également directeur général du camp musical d'Asbestos. En 1999, il se présente aux élections municipales d'Asbestos à titre de conseiller municipal. Il y est élu et demeure conseiller jusqu'en 2005. Après une pause de 4 ans de la scène politique municipale, M. Grimard se présente en 2009 à la mairie de la ville d'Asbestos, où il y est élu en novembre. En plus de participer activement à la vie politique de sa région et de diriger le camp musical d'Asbestos, M. Grimard a depuis 1990 siégé sur de nombreux conseils d'administration, incluant ceux de la Caisse populaire des Métaux Blancs, le comité touristique, l'Omnium de golf Yvon Vallière. M. Grimard préside la régie Récup Estrie, préside la table des MRC de l'Estrie et est également préfet de la MRC des Sources depuis 2011. Et depuis peu, il est membre du conseil d'administration de l'UMQ. M. Grimard, à vous la parole.
Merci, M. le Duc, Mme Sanson, Mme Lemieux, chers invités. Avant d'aborder ma présentation, permettez-moi tout d'abord de remercier la Société du patrimoine politique de l'invitation à participer à ce forum soulignant le 50e anniversaire de la signature de la première entente de coopération entre la France et le Québec. Aussi, nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de vous livrer le point de vue des acteurs régionaux au niveau de la coopération décentralisée. J'aimerais, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots notre municipalité régionale de Comté. On est un petit peu moins connu que Montréal-Québec, mais ça s'en vient. Dans un deuxième temps, j'aborderai la coopération décentralisée franco-québécoise sous l'angle des régions. Dans un troisième temps, je terminerai avec quelques pistes qui pourraient permettre aux régions du Québec de progresser au niveau du développement territorial par la coopération. La MRC des Sources est probablement inconnue pour plusieurs d'entre vous. Autrefois connue sous le nom de la MRC d'Asbestos, le toponyme Les Sources se veut une représentation des municipalités constituées de son territoire qui sont à la tête du bassin versant de la rivière Nicolet. La MRC des Sources se situe à la limite nord-est de la région de l'Estrie, contiguë à la région centre du Québec. Il s'agit de la plus petite MRC de l'Estrie et ce, dans l'ensemble de ses caractéristiques. La MRC compte 7 municipalités et la ville d'Asbestos en est la ville centre. Donc, c'est 15 000 de population. Bien que la MRC des Sources constitue une petite collectivité territoriale dans le paysage estrien, elle se distingue par son dynamisme et par son innovation. La communauté rassemble des gens créatifs, ouverts à la différence et accueillants. Elle a su concerter, mobiliser sa communauté afin de relever les enjeux de territoire. Devant les changements conjoncturels auxquels les milieux municipaux ont été confrontés, la MRC a relevé le défi rapidement afin de faire mieux autrement. Au terme des grands changements pour les MRC sur l'ensemble du territoire québécois, on notera ceux survenus à la fin des années 2014 quant à la nouvelle gouvernance régionale ainsi que le pacte fiscal transitoire. Dorénavant, les MRC ont un rôle prépondérant dans la gouvernance du territoire. Les MRC étaient déjà au centre de la gouvernance régionale et sont maintenant le principal interlocuteur avec le gouvernement du Québec pour les régions. La coopération décentralisée franco-québécoise en région, sans vouloir faire un bilan exhaustif des dernières années sur le sujet, il vaut quand même la peine de jeter un regard sur les actions passées, afin d'en prendre pleinement la mesure des progrès réalisés à ce niveau. Au cours des années 80 et 90, les échanges franco-québécois en région étaient essentiellement dus à l'initiative de ministères des groupements nationaux et qui souhaitaient partager les expériences échangées sur différentes thématiques touchant le développement. À titre d'exemple, nous avons notamment participé à quelques reprises à des échanges sur la thématique du développement de la ruralité franco-québécoise, initié par Solidarité rurale du Québec. Ces échanges donnaient parfois l'impulsion à certaines collectivités, surtout des villes de taille importante ayant une capacité d'investir, de poursuivre sur des projets de coopération débouchant dans plusieurs cas sur des jumelages. Afin de soutenir financièrement ces projets, les promoteurs devaient interpeller différentes instances gouvernementales et régionales. Pour les municipalités de plus petite taille, comme nous et les MRC, l'exercice était laborieux. La mise en place du fonds en 2005 franco-québécois pour la coopération décentralisée est venue en quelque sorte changer la donne, issue de la volonté des premiers ministres Charest et Raffarin d'offrir un soutien aux initiatives des collectivités territoriales françaises et instances locales québécoises. Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée a permis concrètement aux régions du Québec de s'inscrire dans une dynamique de relations internationales. Ces 10 ans du Fonds franco-québécois auront vu un grand nombre de projets levés dans l'ensemble des régions du Québec, un partage d'innovation et d'expertise importante dans de nombreux domaines qui n'auraient pu voir le jour sans ce soutien. Si jusqu'à tout récemment, la coopération décentralisée franco-québécoise en région s'articulait au niveau des conférences régionales des élus, elle se redéfinit maintenant directement par les MRC. Des régions qui avaient développé une certaine expertise dans l'élaboration de projets dans différentes sphères d'activité poursuivent leurs actions convaincus des bénéfices que rapporte la coopération pour le territoire. En effet, vu sous l'angle des régions, la coopération franco-québécoise a donné des résultats concrets, a permis de bâtir des liens solides en collectivité dont le bénéfice se font sentir sur le long terme et d'une façon concrète. Quelques pistes concrètement à gagner pour les régions du Québec en coopérant avec les collectivités françaises. En quoi les échanges et les partages d'expériences avec la France peuvent permettre aux régions du Québec de progresser au niveau du développement de leur territoire? J'aimerais ici soulever quelques pistes de réponse. Permettez-moi de revenir sur l'expérience de la MRC. La MRC des Sources a vécu coup sur coup l'arrêt des activités de métallurgie Magnolia et de la mine Jeffrey Asbestos. Confrontée à ces cataclysmes, la MRC devait reconvertir complètement son économie. De nouveaux enjeux, autres que strictement économiques, nous amenaient à réfléchir autrement sur le redéploiement du territoire, notamment sous l'angle du développement durable. À ce moment, nous avons découvert qu'en France, plusieurs collectivités territoriales avaient réalisé des agendas 21. Pour résumer simplement, un agenda 21 est un programme d'action transversale répondant aux principes de développement durable. S'inspirant de la méthodologie française issue de la coopération, nous sommes devenus la première MRC au Québec à se doter d'un agenda 21. Cette expérience résulte de la coopération franco-québécoise a permis de nous mettre au travail sur toute une série de projets innovants, le dernier en liste pour la thématique des éco-matériaux et l'éco-construction. Donc, j'en profite pour vous inviter au rendez-vous des éco-matériaux au mois d'octobre prochain chez nous. Vous allez voir, la MRC des Sources bouge et dynamique, puis on est vraiment tourné sur l'avenir. Face aux défis que les régions du Québec doivent relever, ces dernières ont tous avantage à jeter un coup d'œil du côté de la coopération avec la France. On n'a qu'à penser à la lutte au changement climatique et tous ces projets de plan climat qui se mettent en branle dans les collectivités territoriales françaises. Ces plans comprennent des actions concrètes au niveau de la transition énergétique. Pensons à de nouvelles thématiques économiques, les technologies environnementales, l'économie du numérique. Supporter de nouvelles avenues au niveau du projet de coopération en culture dans le domaine du tourisme, voilà quelques avenues à explorer. Pour conclure, avec la nouvelle gouvernance de territoire, les MRC ont un rôle important à jouer afin de poursuivre le travail des régions en faveur de la coopération. Les dernières années ont démontré que cette coopération a porté ses fruits et donné des résultats concrets dans toutes les régions du Québec. Je pense que c'est important vraiment, ce n'est pas seulement les grandes villes, les régions, on a besoin de ce genre de travail. Il importe de maintenir les acquis des dernières années, notamment de programmes de soutien tels le Fonds de coopération. Il faut que l'on continue à épauler les régions dans leur volonté de développer des liens toujours plus étroits avec les collectivités de territoires français. La MRC des Sources est un exemple parfait d'un territoire en région pour qui les échanges franco-québécois et la coopération décentralisée ont été déterminants pour inscrire le territoire dans une dynamique d'innovation. Parfois, nous sommes souvent portés à vouloir réinventer la roue. Toutefois, des innovations, des idées, des concepts, ils s'en développent un peu partout. Il faut être opportuniste, être ouvert au partage d'expériences, s'inspirer de ces expériences et les adapter à notre contexte propre afin d'agir pour des régions plus prospères. Merci beaucoup.
Alors, mesdames, messieurs, merci. Donc, on passe à la période des questions. Nommez-vous, s'il vous plaît.
Racine, et je vais prendre mon chapeau de maire de ville du Lac-Sergent. Vous avez abordé, M. Grimard, une dimension intéressante de la coopération, mais malheureusement peu explorée, celui de l'environnement. À l'heure où on est en train de reviser le Q2R22, c'est les installations septiques individuelles qui nous ont mené à une véritable catastrophe écologique sur nos lacs et nos rivières. On a peut-être, et puis je vois Mme Lemieux, puis on connaît le débat au lac Saint-Charles aussi, je pense qu'on aurait là des pistes intéressantes à voir ce qui se fait en France au niveau environnemental, au niveau des technologies environnementales, parce qu'à l'heure actuelle, on est en train, avec les systèmes et même avec la réforme qui est proposée actuellement, de continuer de polluer nos lacs, nos rivières, puis avant longtemps, ça va être notre nappe phréatique. Alors, je pense qu'il y a des choses à faire, et vous avez raison quand vous soulignez qu'une bonne partie de la coopération va passer désormais par les villes ou les MRC, parce qu'une ville comme la mienne, ils ont à peine le moyen de me payer un billet de train entre Paris puis Bordeaux. Merci.
Merci, M. Rioux. Allez-y. Nommez-vous.
Ma question sera à M. Fafard.
Nommez-vous, M. Rioux.
Mathias Rioux.
Merci.
Étudiant à l'Université Laval. Au doctorat. M. Hérimas, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être efficace. Vous en faites la démonstration. J'aimerais vous demander, pour mon information et celle des gens qui sont ici aujourd'hui, est-ce que dans votre MRC, vous avez conservé la conférence régionale des élus? Est-ce que vous avez conservé la structure du CLD? Et si vous les avez conservés, j'ai tendance à vous féliciter parce que ça peut vous aider, mais si vous ne les avez pas conservés, comment allez-vous assumer toutes vos nouvelles responsabilités alors que les MRC n'ont pas plus de pouvoir qu'avant? Et qu'ils ont plus de travail qu'avant. J'aimerais... Avez-vous une recette miracle?
La question est bien placée parce que je suis président de la table des préfets de l'Estrie. Je représente l'ensemble des élus de l'Estrie. Et pour nous, c'est important. La conférence régionale des élus, suite à une décision gouvernementale, a été abolie. Chez nous, est abolie et on est en fermeture. Et au niveau des CLD également. Oui. Donc, pour nous, on a fonctionné avec la table des préfets. On a élargi notre table pour pouvoir avoir plus d'élus, pour pouvoir se concerter. On est en train de faire un diagnostic. On part de la base de l'ensemble des municipalités, des MRC, pour pouvoir savoir c'est quoi les besoins. Et on remonte pour pouvoir vraiment adapter une structure qui réponde non au gouvernement, mais qui répond aux besoins des élus de notre territoire qui est l'Estrie. Donc, on va avoir dans les prochaines semaines vraiment une structure adaptée pour pouvoir faire une concertation. Parce qu'on n'a pas le choix présentement pour une petite MRC, on n'a pas le choix de travailler avec l'ensemble des autres MRC de notre région. C'est tous ensemble qu'on est capable de faire la différence. Au niveau de l'abolition des CLD, on est la première MRC qu'on a fait une transition. On a fermé notre CLD, on a transféré directement à la MRC, ça allait bien parce qu'on avait déjà une majorité au niveau de la table décisionnelle. Donc, on a pu prendre les moyens pour pouvoir être actif, pour être capable de continuer rapidement d'accompagner nos entrepreneurs. Donc, chez nous, on dit, on accepte le passé, on regarde l'avenir et on travaille très, très fort pour être proactif, être rapide pour pouvoir prendre nos décisions.
Petite information. La structure qui est en train de se mettre en place chez vous, est-ce que c'est cette structure-là qui va s'occuper de la coopération décentralisée?
On ne sait pas. On est en réflexion présentement. On regarde chacun des dossiers parce qu'on fait quelque chose d'une façon continue de le faire. Donc, on prend chacun des dossiers puis on verra dans le temps. Mais nous, c'est sûr qu'on va être des leaders. Notre MRC, on est un leader de la concertation. Et on veut continuer dans ce sens-là. Si l'ensemble des élus ne va pas le faire, chez nous, on va continuer de le faire. Parce qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs et non réinventer la roue.
OK.
Mesdames, Marie. Ah, madame.
Diane Lavallée, historienne. Ma question va être pour Mme Samson. Je pense, Mme Samson, que l'année prochaine, lors du 375e de Montréal, que c'est une belle occasion de faire un rapprochement avec la France et de montrer aux Français qui ont décidé d'habiter ici, à Montréal et au Québec, de leur montrer le côté francophone et le côté français de notre belle ville. Et on a vu cette semaine sur les réseaux sociaux que la que la fête qui s'en vient l'année prochaine risque d'être en quelque sorte bilingue. Fait que j'aimerais peut-être vous entendre à ce sujet, si on veut montrer justement notre fierté de ville française, la première ville, dans le fond, française en Amérique, ben, et se rapprocher aussi des Français d'ici et aussi de France, ça serait peut-être intéressant d'avoir une fête en français.
Madame.
Ben, il ne faut pas toujours voir tout ce qu'on voit, il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, mais pour être proche du comité des 375e de Montréal, Montréal est une ville francophone avec des citoyens qui parlent français. On a une immigration aussi extrêmement importante et on doit aussi adapter nos services à tous nos citoyens qui vivent à Montréal en gardant le fait francophone. Ce qui fait que cette fête-là sera représentative de Montréal avec nos amis français, mais avec nos amis de tous les pays. Il faut rappeler que Montréal, sa base multiculturelle est fondée de 200 communautés culturelles différentes où la langue française est le point commun. Il y en a qui viennent d'arriver, donc le français est un petit peu plus difficile à apprendre, on comprend ça. Et comme municipalité, on doit toujours garder l'ouverture qu'on doit offrir ces services-là à nos citoyens, qu'ils nous comprennent ou pas. On doit ramasser les déchets, faire le déneigement, offrir des services de base. Et d'où vient, entre autres, moi je suis dans un arrondissement qui est celui qui est, à part Côte-des-Neiges, le plus multiculturel, 115 communautés culturelles différentes. Je peux vous dire que faire passer des messages de sécurité ou des respects des règlements, c'est pas toujours facile. On le fait en français, mais à partir du moment où on peut essayer de se faire comprendre autrement, on va le faire en pictogramme et tout ça. Mais pour Montréal, le 375e sera fait évidemment en français et dans certains secteurs, parce qu'on a un arrondissement qui a un statut bilingue, donc il l'a gardé après la fusion des villes. Donc, ce statut-là d'arrondissement va demeurer bilingue quand même. Et il y aura des fêtes qui seront données, mais la plupart de nos fêtes, nous, ce qu'on vit, c'est le français, évidemment.
Madame Lemieux, aimeriez-vous intervenir sur la question de la structure d'intervention de M. Rioux?
Bien, honnêtement, non. Mais c'est une question intéressante, mais c'est parce que je trouvais que le lien avec la France et le Québec était moins évident pour moi dans cette question-là, mais je peux répondre à d'autres questions. C'est pas qu'elle n'est pas pertinente, mais je trouve que M. Guimard a très bien répondu de toute façon. On a subi un peu la même chose aussi, on s'en sort bien.
Question là-bas. Pour Stéphane Lacasse du Comité d'élection politique. Écoutez, Mme Lemieux, je vous remercie premièrement pour la Maison de la littérature, qui est un excellent monument que vous avez restauré. Bravo. Merci beaucoup pour ça. Et je veux vous interpeller sur comment on peut rendre accessible à la Ville de Québec la culture à la population. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se font en France aussi. Puis j'aimerais vous entendre là-dessus par rapport à vos expériences que vous avez vécues et d'offrir le plus de culture possible aux gens de Québec et aux arrondissements.
En fait, on a adopté une vision de développement culturel l'année dernière qui nous projette sur les 10 prochaines années. Et il y a justement plusieurs actions en lien avec la culture pour tout le monde là, qui sont comprises dans cette vision-là. On a parlé des bibliothèques tout à l'heure, on mise beaucoup sur notre réseau bibliothèque et la Maison de la littérature en est un bon exemple. Pour nous, la bibliothèque est la porte d'entrée de la culture et on s'est rendu compte que dès qu'on investit dans nos bibliothèques, c'est un succès monstre à chaque fois. Il y a plusieurs qui ont annoncé la fin des bibliothèques ces dernières années, la fin du livre papier, la fin. Nous, nos prêts jeunesse ont augmenté de 64%, les prêts papier jeunesse ont augmenté de 64% depuis 2012. Ça veut dire que les jeunes lisent encore, les jeunes veulent fréquenter les bibliothèques, si on leur offre un beau lieu. Et une fois qu'ils sont rentrés dans les bibliothèques, là, tu peux leur exposer tout ce qui se passe au plan culturel dans la ville. C'est vraiment l'endroit par excellence pour diffuser notre culture. Donc ça, pour nous, c'est un outil dont on veut se servir de plus en plus. On le fait déjà bien, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Puis pour le reste, on travaille beaucoup avec la communauté artistique. On va profiter du 150e l'année prochaine aussi, de la Confédération, pour mettre tous nos organismes culturels ensemble pour arriver à offrir aussi davantage de culture à travers les budgets qu'on pour aller chercher, parce que c'est toujours le nerf de la guerre et toujours un peu l'argent. Donc, on essaie de profiter de chacune des occasions qu'on a pour mettre tout le monde ensemble pour offrir justement plus de produits culturels à notre population. Mais les gens répondent très bien, je pense, à Québec. Dès qu'on on est un peu original, puis qu'on arrive avec des produits différents, intéressants, ils sont au rendez-vous. Donc, on est à l'affût. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus en détail, la vision de développement culturel est sur le site de la Ville de Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a mis en place dans ce sens-là là, pour aller chercher davantage la population, pour leur faire, les faire consommer de la culture, parce que c'est ça la lutte, le développement public aussi. Là. Donc, on a plein d'outils qu'on a mis en place là, pour les prochaines années dans ce sens-là.
Dernière question, monsieur. Nommez-vous.
Bonjour, mon nom est Quentin Marida. Je me posais une question concernant le développement économique dans la coopération décentralisée, étant donné que du côté québécois, on vient d'en parler, on a vu que les CRE ont disparu, que les MRC essayent de récupérer certaines de leurs missions et que les villes essayent de le faire aussi. Du côté français, par exemple, la nouvelle organisation régionale qui vient d'être mise en place a prévu plutôt un peu le contraire, on va dire, c'est-à-dire que certaines régions ont été fusionnées de manière à avoir des territoires beaucoup plus larges, incluant à la fois des territoires très ruraux avec des municipalités de quelques dizaines d'habitants parfois, et dans la même entité administrative, des grandes villes de plus de 100 000 habitants, parfois plusieurs grandes villes par région. Et que, justement, assurer la cohésion entre ces territoires très différents permet d'avoir une vision du développement économique sur un territoire au complet. C'est le choix qu'a fait la France dans sa réforme.
Question, s'il vous plaît.
Ma question, donc, est-ce que vous avez eu des échanges avec vos interlocuteurs en France, vos interlocuteurs régionaux, pour savoir comment ils envisagent, justement, la poursuite de la coopération décentralisée entre régions? Étant donné que, d'une part, on a des régions qui sont devenues des grandes régions avec des tissus sociaux et municipaux très diversifiés, et d'autre part, des entités beaucoup plus petites pour les MRC et des villes qui vont fonctionner toutes seules en dehors de la région qui les entoure dorénavant. Merci.
Qui veut répondre à cette question?
Je vous laisse.
Allez-y, Madame Lemieux.
Non, allez-y, parce que c'était plus comparable à votre région.
Chez nous, directement, on a des preuves concrètes que ça fonctionne. Ça fonctionne encore très, très bien. On a une belle relation d'établir avec le Bureau d'Investissement Québec à Paris. Donc, on travaille en étroite collaboration. Même si on est un petit milieu, on a une très belle réception lorsqu'on va visiter nos confrères français. Donc, c'est de cette façon-là, puis c'est du cas par cas pour l'industrie. On sait vraiment des créneaux qu'on veut développer et ils nous mettent en contact avec nos homologues dans leur territoire.
Madame Sanson.
Je vais répondre en partie à ce que monsieur a posé comme question, mais beaucoup aussi à M. Rioux, parce qu'on a vécu, nous aussi, c'est pas juste les MRC ou les petites villes qui ont vu leur CLD et le CRE disparaître. Là, on a dû s'adapter. Et de toute façon, à l'international, ça change pas le fruit de nos relations, parce qu'on va beaucoup sur ce qui nous ressemble et sur ce qu'on est capable d'échanger ensemble. On ressort gagnant à la fois de ce que la France peut nous apporter ou ce qu'on peut apporter à la France et vice-versa. Je pense que ces relations-là passent pas nécessairement à travers ces grandes structures, même si elles le sont. On sait que les structures sont appelées à changer souvent, comme on l'a vécu là. On était tout le monde, c'est pas nous qui l'avons demandé de changer des structures, mais souvent, ça nous pousse à aller plus loin. Ces structures-là ont fait un temps, et maintenant, on est en 2016. Les besoins ont certainement changé. Les villes ont changé à l'époque où ça a été fait. Bon, les villes n'existaient pas nécessairement à Montréal, les fusions. Hein, les CEDEC existaient depuis déjà plusieurs années. Les villes ont eu des fusions, ont eu des changements de territoire, les besoins ont changé, les besoins économiques ont changé, les visions ont changé. Et en 2016, bon, on vit avec cette réforme de structure. Et ce qu'on a réussi à faire, bien, faire le mieux avec ce qu'on avait, avec la moitié du financement, on a réussi à mettre en place des structures qui vont aller directement sur les points sur lesquels les villes ont besoin de travailler. Donc, on a laissé peut-être aller un peu le superflu ou ce qui était le moins nécessaire. Le CRE a disparu également pour faire place chez nous à Concertation Montréal, qui a un autre mandat, mais qui va aller chercher... Tu sais, on a dédoublé un peu les structures. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup de structures à Montréal, puis beaucoup faisaient aussi la même chose. Donc, on se dit comment on est capable d'être beaucoup plus proactif, en avoir pour notre argent et pas toujours dédoubler ce qu'on a à faire parce qu'on a plusieurs organismes qui ont les mêmes lignées. Donc, on est allé choisir des créneaux qui nous touchent dans notre développement, qui touchent vraiment notre population et qui vont dans la volonté de la ville. Et là, on a le véritable pouvoir en ville, puis les municipalités l'ont, de gérer pleinement le développement économique. Avant, on avait une structure à trois niveaux, fédéral, provincial, municipal. Là, actuellement, c'est nous qui la gérons avec les gens qu'on a mis en place, avec les budgets qu'on a, mais aussi avec les priorités qu'on met en place, c'est les nôtres. Et ça, on est en meilleur contrôle dans les municipalités à travers le Québec sur le développement de nos territoires. Ça touche un peu tout le monde, mais on a ce contrôle-là maintenant.
On termine avec un bref commentaire de Mme Lemieux.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Mme Sanson vient de dire. Je pense que ce ne sont pas les structures qui comptent, c'est la mission. C'est le résultat. Et puis, oui, il y a eu des brassages de structures, mais nous, à la Québec, on a la communauté métropolitaine de Québec qui est très efficace, qui regroupe les maires de toute la région, la communauté métropolitaine, et puis tous les enjeux qui étaient abordés par la CRI, entre autres, se retrouvent maintenant à la table de la CMQ, et je pense que ça fait très bien le travail. Jusqu'à maintenant, ça se passe très, très bien. Et on a une autre organisation aussi qui s'appelle Québec International, qui fait beaucoup de promotion, de développement économique à l'étranger, et aussi au Canada. Puis c'est cet outil-là qui a pris la relève aussi en développement économique parce qu'ils sont experts en la matière. Donc, on a donné plus de moyens à nos organisations qui étaient déjà en place et qui maintenant, justement, sont plus maîtres de leur message aussi, de leur mission. En bout de ligne, ça a été, oui, un peu difficile à traverser comme période, mais maintenant, ça s'est placé. Pour ce qui est de la France, écoutez, moi, quand j'en perds mon latin avec les structures en France, toutes les fois qu'on se promène là-bas, c'est un peu difficile de comprendre le fonctionnement des municipalités. Il y a beaucoup de structures en France. Je pense que la France aurait intérêt à s'inspirer un peu plus du Québec dans nos structures à nous, qui sont beaucoup plus légères, même si des fois c'est compliqué quand même. La France est compliquée pour ça. Donc, je pense que nous, on met de côté les structures et on va vers les gens. En fait, on mise beaucoup sur les humains. Et puis, on parle à Saint-Malo, qui est une petite ville, comme on parle à Nantes, qui est une plus grande ville, comme on parle à Paris, qui est une méga-ville. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec les structures. Je pense que l'important, c'est de quand même se déplacer, de se rencontrer, comme les gens de la France ont fait ces dernières semaines ici. Et c'est pour nous aussi important d'aller les voir sur le terrain pour échanger sur les enjeux communs. Mais les structures, pour moi, ce n'est pas là que ça se passe. Je pense que c'est de privilégier les contacts entre humains, les amitiés. Puis c'est comme ça, je pense que l'avenir va se poser aussi dans les prochaines années.
Ouais. Oh, mesdames, messieurs, monsieur, merci beaucoup de votre participation. Et on passe au suivant. Martine.
Merci.